RFI, grand reportage, Laurent Sadoux.
Grand reportage qui vous emmène aujourd'hui au nord du Cameroun et plus précisément à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Depuis un an, la secte Boko Haram attaque le Cameroun depuis ses bases situées dans l'état de Borno. Nous sommes là au Nigeria et déstabilise tout le nord du pays. Olivier Roger, qui est déjà parmi nous, a pu se rendre en compagnie de l'armée camerounaise sur cette frontière où les attaques et les incursions sont devenues quasi quotidiennes et où il est quasiment impossible de se déplacer sans escorte militaire. Olivier qui a rencontré ces soldats qui se battent vaillamment depuis un an contre Boko Haram. Olivier Roger que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Alors, ici nous sommes sur la frontière du Cameroun et le Nigeria. Devant nous, un mouvement de terrain. Donc ce massif, en fait, cache la ville de Madagali qui est tenue par les BH. Toutes ces localités ont été vidées de leur population et contiennent des BH qui viennent de manière sporadique. Donc nos positions sont implantées le long de toute la frontière tenue par les éléments des bataillons d'infanterie motorisée ainsi que les fusiliers de l'air.
Nous sommes à Mabas, une colline rocailleuse brûlée par un soleil de plomb planté sur la frontière du Nigeria dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Le colonel Jacob Kodji est le commandant de la 4e région militaire. C'est lui qui dirige la guerre contre Boko Haram. Il nous fait visiter ce poste avancé. Une vingtaine d'hommes y campent en permanence. Ils sont équipés de mortiers de 120 mm et surveillent les villages en contrebas, des localités vidées de leur population et investies par les BH, les Boko Haram, comme disent les soldats camerounais.
Et vraiment pour dire, nous sommes des fusiliers commandos de l'air, nous sommes venus ici pour combattre les Boko Haram et on le fait vigoureusement sur le terrain.
La zone est relativement calme et les soldats ont le moral au beau fixe, comme en témoigne le première classe Ibrahim Boukar et son ami le sergent-chef Nana.
On a les tireurs d'élite, ils ont les visions nocturnes et ils tirent même dans le noir. Et on réussit à faire notre opération. Je vous assure que d'ici 3 mois, l'histoire va finir. Surtout que l'armée camerounaise, ce n'est pas la quantité, c'est l'efficacité. Grâce à notre efficacité, nous allons mettre tout à jour. On va le mettre à terre. 10 militaires camerounais peuvent abattre même 10 500 Boko Haram. Je vous jure, on n'aura même pas d'incident. Ouais.
Ça fait pratiquement un mois que ce poste a été créé lors de l'attaque des Boko Haram qui ont pris 62 enfants dans ce village-ci. Bon, nous sommes arrivés, on les a repoussés sur ce chemin-ci. Dès qu'on les a repoussés là, on s'est implanté là. Depuis ce jour-là, le village est en sécurité et nous sommes là depuis, il n'y a pas de problème.
Cette position constitue le premier rideau défensif contre les incursions des djihadistes. En remontant au nord, sur 400 km de frontière, le Cameroun a installé des postes, construit ou renforcé des bases, déployé des contingents, une véritable ligne Maginot pour empêcher les attaques ennemies. L'armée a renforcé ses équipements et s'apprête à recevoir de nouveaux hélicoptères de combat de type Mi-24 de fabrication russe. La première bataille entre les combattants djihadistes et l'armée camerounaise remonte au 2 mars 2014. Mais la guerre a pris une ampleur inédite en milieu d'année avec une série d'offensives meurtrières lancées par Boko Haram contre les villes frontalières de l'extrême nord, Amchide, Kolofata, Kerawa, Asigachia, Dabanga, Fotokol. Au total, en 2014, l'armée camerounaise a relevé 114 incidents armés, dont 26 attaques majeures. Elle y a perdu une soixantaine d'hommes, mais affirme avoir abattu plusieurs centaines de Boko Haram.
Embarquez les deux patrouilles.
Nous arrivons à Amchide, ville posée sur la frontière et dont la partie nigériane s'appelle Banki. C'est l'une des villes les plus dangereuses de la région. Amchide, aujourd'hui quasi déserte, a été attaquée à 2 reprises, en octobre et en décembre de l'an dernier. Ce sont les hommes du BIR, le bataillon d'intervention rapide, qui y sont cantonnés. Devant le portail de leur camp, on peut voir les restes calcinés d'un blindé de Boko Haram sur lequel est posé un crâne humain. 2 hommes se prennent en photo devant.
Arrêtez de jouer avec ça!
L'homme qui s'exprime est l'un des commandants du détachement. Responsable de la cellule antiterroriste du BIR, ce capitaine qui préfère garder l'anonymat sort de West Point, la grande école militaire américaine. Il manie l'ordinateur, la Kalachnikov et le vocabulaire si particulier des soldats avec une même aisance.
Le détachement d'Amchide et de Limani a reçu pour mission de neutraliser et d'intercepter tout combattant de Boko Haram repéré dans notre zone d'action. Nous avons des actions sur objectifs ciblés sur renseignement. Nous faisons ce que nous avons à faire. Comme je dis tantôt, nous interceptons et nous neutralisons tout combattant ou sympathisant.
Vous en faites beaucoup des opérations ciblées sur des sympathisants ou des militants?
Autant que les opportunités se présentent, nous ne reculons pas, nous n'hésitons pas.
Le BIR est le bataillon d'élite de l'armée camerounaise. 2000 hommes formés aux missions périlleuses, entraînés par des conseillers américains et israéliens, équipés de matériel de pointe. Les hommes du BIR sont en première ligne au contact avec Boko Haram. Dans la base de Kolofata, cœur de la stratégie défensive camerounaise, le capitaine Ibrahim Djankouro a eu à affronter Boko Haram à plusieurs reprises. Une bataille mémorable l'a particulièrement marquée, celle du 12 janvier dernier. Boko Haram a voulu ce jour-là s'emparer du camp de Kolofata.
Les BH s'étaient jurés de conquérir le poste de Kolofata et d'y installer le drapeau. Donc ils ont fait infiltrer des éléments de nuit à partir d'une position qu'ils avaient reconnue à l'avance dans un village Bamé, situé à 2 km d'ici. Aidés par le brouillard matinal, parce qu'il y avait un épais brouillard ce matin, ils ont réussi à approcher de très près les dispositifs là où nous sommes. Vous avez ces postes de combat qui sont là-bas. Donc ils les ont approchés à peu près à 50 mètres. Ils ont lancé l'assaut à 6 heures. Dans les premiers instants du combat, nous étions débordés déjà par la puissance de feu, par le nombre, parce qu'ils étaient 300, par le matériel qu'ils avaient amené, parce qu'il y avait des chars, des blindés, deux véhicules sur lesquels étaient montés des 14-5, trois véhicules sur lesquels étaient montés des mitrailleuses 12-7. Et au bout d'une heure, on a réussi à reprendre la liberté d'action. Ils ont battu en retraite jusqu'au niveau de la gendarmerie, les bâtiments de la gendarmerie qui sont là où il y a les arbres que vous voyez verts là. Ils se sont regroupés là-bas, certainement pour réorganiser leur manœuvre, parce qu'ils ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas à une telle résistance. Donc pendant qu'ils se regroupaient avec leurs chars, qu'ils comptaient leurs blessés et leurs morts, nos renforts étaient déjà là. Avec ça, on est passé à l'offensive. C'est nous qui avons eu l'initiative et on les a pourchassés. Ceux dont ils n'ont pas l'habitude. En général, ils viennent attaquer plus partout.
Les soldats ont appris à connaître les stratégies et les tactiques de Boko Haram. Les vagues d'assaut sont pensées, étudiées. Elles se déroulent toujours selon un même schéma. Une première vague de combattants à pied ou à moto, suivie de l'arrivée de mitrailleuses lourdes, voire de blindés. Et puis, si nécessaire, une deuxième vague d'assaut de combattants plus expérimentés. Il existe des hiérarchies, ainsi qu'une division des tâches au sein du groupe armé, comme l'a compris le chef de bataillon Clément Garançou.
On sait que ceux qui portent la tenue militaire sont des chefs. En général, il faut gravir les échelons, faire ses preuves, avoir tué beaucoup de gens, avoir égorgé plusieurs, pour avoir l'honneur de porter la tenue militaire, combattre en tenue militaire. Porter des bottes, ceux-là qui sont en tenue militaire sont ceux qui ont un niveau hiérarchique élevé. Les autres, il faut commencer d'abord comme ramasseur de cadavres sur le champ de bataille. Après, passer sur cette étape-là, on peut vous donner des armes, mais vous êtes en tenue civile. Quand vous gravissez les échelons, vous acquérez le droit de porter la tenue militaire.
On dit qu'ils se droguent, qu'ils prennent des drogues. Comment ça se manifeste au combat?
Surexcités, ils n'ont pas peur. Ils prennent tous les risques. Parfois, ils agissent, parfois, à la limite de la bêtise.
Faire face à ces assauts n'est pas facile. Il faut garder son sang-froid et surtout repérer les officiers, ceux qui dirigent la manœuvre. Lors de l'attaque du 12 janvier, le capitaine Djankouro se souvient de son face-à-face avec l'un de ses chefs de Boko Haram.
Lui, il était en face, à l'entrée du camp, et il venait par ici, sans rien. Autour de lui, il y avait trois combattants armés, avec des kalachnikovs. Ces trois combattants lui servent de bouclier, donc ils sont comme son bouclier. Ils sont debout, mais lui, il vient sans armes. Et c'est lui, à distance, qui donne les directives. Il a le Motorola, il a le GPS. C'est lui qui avait le GPS. J'ai appelé mon tireur d'élite. Il est venu. On était juste à l'entrée du portail. J'étais le premier à tirer en sa direction. J'ai tiré au coup par coup. Ça ne l'a pas touché. J'ai tiré en rafale. Ça ne l'a pas touché. J'ai appelé le tireur de précision. Il est venu. Il a tiré également. Ça ne prenait pas. On a compris que c'était les combattants qui étaient devant, qui lui servaient de bouclier. Ils avaient des bonnes combinaisons et tout.
Ils avaient des gilets pare-balles.
Ils avaient des gilets, oui, parce qu'ils protègent le chef, forcément. C'est à lui qui a le meilleur gilet, celui qui a le meilleur casque, parce qu'il doit protéger le chef. Donc le tireur de précision, il m'a demandé de le couvrir et de traiter prioritairement les trois combattants. C'est ce que j'ai fait, je l'ai couvert, je me suis avancé, j'ai traité les trois combattants. Et lui, il a réussi à descendre le type, l'officier, le grand, qui n'avait pas d'armes. Il est tombé en face avec le Motorola et le GPS. On l'a reconnu comme étant un général qui avait participé à plusieurs batailles ailleurs, à Fotokol, à Amchidé, et qui se passait pour être invulnérable et intouchable. On l'a reconnu. Il n'est pas le seul qu'on a reconnu. On a reconnu d'autres combattants aguerris parmi ceux qu'on avait tués.
Boko Haram est donc une armée qui dispose de tacticiens, de stratèges. Selon les renseignements camerounais, la zone que contrôle la secte en territoire nigérian aurait été divisée en 6 régions, dotées chacune d'un commandement autonome. Il est fort probable que d'anciens militaires nigérians aient rejoint la secte, colonel Kodji.
C'est difficile à dire parce que Boko Haram, c'est une métamorphose permanente. Ils recrutent tous les jours, ils en perdent tous les jours également. Donc c'est difficile à dire, de donner un chiffre exact. Bon, des sources concordantes, on parle de 8 000 à 13 000 hommes.
Avez-vous le sentiment qu'ils ont des stratèges ?
Assurément, assurément. Leur mode opératoire qui ne fait que changer, leur mode d'action se mute au fur et à mesure que nous les harcelons, ou nous les contenons, nous les repoussons. Ce qui veut dire que derrière, il y a une machine pensante non négligeable.
Bon, allons sur l'humain après, je crois que ce sera terminé, non ?
L'une des difficultés pour les hommes de Yaoundé est d'empêcher le recrutement de combattants au sein de la population camerounaise. Difficile de dire combien de Camerounais ont rejoint Boko Haram, mais dans certains villages, les soldats camerounais sont troublés par ce qu'ils voient. Il y a des complicités évidentes. Chef de bataillon Clément Garansou.
Pas peur, mais peut-être parfois c'est pas conviction.
Mais comment les populations peuvent être, on va dire, en partie favorables à ces gens-là, alors qu'ils arrêtent les bus, ils tuent tous les hommes et kidnappent les femmes ? Ça ne fait pas réfléchir les gens dans les villages, ils ne se disent pas finalement c'est d'abord nos ennemis.
C'est là tout le paradoxe du phénomène. Parce que ceux-là qu'ils exécutent, ils les présentent comme des ennemis de Dieu. En fait, les populations qui parviennent à discerner entre la cause de Dieu et la criminalité, ceux-là ne sont pas avec eux. Et ce sont ces populations-là qui fuient en fait la zone. Toute la zone, beaucoup de populations ont fui la zone. La ville de Mora, qui est la plus proche, la population a doublé, voire peut-être triplé. Tous ceux qui ne partent, mais ceux qui restent ici sont ceux qui croient en cette idéologie. Les sympathisants, ils sont là. Ils n'ont pas besoin de s'infiltrer, ils sont déjà là. Ce sont les combattants armés qui peuvent s'infiltrer avec leurs armes pour mener des opérations en s'appuyant sur cette population favorable.
L'armée s'empresse cependant d'ajouter que ces complicités sont marginales. La majorité de la population résiste ou a fui les villes frontalières. L'armée camerounaise apprend à connaître son ennemi au fur et à mesure des attaques et des batailles. Parfois, cet apprentissage s'effectue dans la douleur. Nous sommes maintenant à Fotokol, une ville martyre située sur la rive droite d'une rivière, l'Elbeïde, de l'autre côté du pont, la ville nigériane de Gambaru. Le 2 février dernier, l'armée tchadienne venue en renfort passe le pont et attaque Gambaru, chassant Boko Haram qui occupait la localité depuis le mois d'août 2014. Les Tchadiens s'éloignent alors de quelques kilomètres, tandis que les Camerounais se replient dans leur base. Dans la nuit du 4 février, Boko Haram se venge et attaque Fotokol. Bilan, 81 civils massacrés dans la nuit, 6 soldats camerounais tués. La ville poussiéreuse porte toujours les stigmates de l'attaque. Bâtiments calcinés, commerces pillés et habitants traumatisés. Baba est un jeune garçon d'une douzaine d'années. Il a vu les djihadistes entrer dans sa maison cette nuit du 4 février.
Les Boko Haram ont tué mes deux grands frères. J'étais dans la maison. Je me suis caché. Ils disent que où sont les hommes ? Où sont les hommes ? Où sont les garçons là ? Les deux là n'ont pas. Ils ne sont pas cachés, mais on les a tués. Et nous, on s'est cachés. Un là, ils ont tiré sur la poitrine. Et une balle dans la tête, sur la tête.
Tes deux frères ?
Oui.
Et toi, tu as réussi à te cacher ?
Oui. Et puis, on a fui. On s'est sorti. On a fui vers un village qui est proche ici, Blangafé. On est parti à pied. Beaucoup de personnes comme cela. Ma mère et mes petits frères sont partis au village.
Les armées camerounaises et tchadiennes ont manifestement commis une erreur. Mais le chef de bataillon, Beltus Kouéné, préfère parler d'un manque de coordination.
Ce que je peux vous dire par rapport à l'attaque du 4, c'est que l'ennemi a certainement profité de la période de rodage qu'il faut lorsque deux forces s'installent en un même point pour assurer leur coordination. Donc cette période de rodage n'étant pas encore totalement effective, l'ennemi a profité pour s'infiltrer entre les deux lignes et effectuer cette attaque.
Vous étiez là ce jour-là ?
Nous étions tous là. L'ennemi a réussi à faire bouger notre première ligne et la deuxième ligne a réussi à le repousser avec l'appui des amis. Tout est revenu au calme. Nous avons reçu des renforts capacitaires en personnel, en moyens opérationnels. Le commandement de l'opération est venu sur le terrain pour renforcer le moral des personnels. Actuellement, nous sommes gonflés à bloc et nous sommes prêts à défendre l'intégrité de notre territoire.
Face à un ennemi aussi nombreux, les estimations vont de 8 à 15 000 hommes, sur un terrain d'opération aussi vaste, plus de 400 km, l'armée camerounaise a une tâche difficile. Longtemps accusé d'inaction, le président Paul Biya a désormais donné des moyens importants à ses soldats pour qu'ils repoussent les djihadistes. Si les renforts tchadiens arrivés mi-janvier ont soulagé l'armée camerounaise, chacun sait que la victoire finale contre Boko Haram dépend largement de l'engagement de l'armée nigériane qui depuis des mois a déserté la région. Pour autant, les Camerounais garde le moral. Moral, c'est d'ailleurs le nom du champ de guerre de l'armée camerounaise que les soldats entonnent bien volontiers devant les journalistes de passage. Cameroun, terreur aux frontières, un grand reportage de Olivier Roger, réalisation Eva Moshinsky.
Olivier Roger, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors, à écouter votre grand reportage, on voit bien que les soldats camerounais sont sur une position défensive. Pourquoi ne font-ils pas comme leurs alliés tchadiens, c'est-à-dire en fait pour chasser Boko Haram sur son terrain, c'est-à-dire sur le sol nigérian?
Tout simplement, Laurent, parce qu'ils n'en ont pas reçu l'autorisation. Le Cameroun, vous le savez, a demandé un droit de poursuite au Nigeria, mais Abuja a refusé ce droit de poursuite. Il faut préciser que par le passé, le Cameroun avait refusé la même chose aux soldats nigérians et aujourd'hui, Abuja, en quelque sorte, lui rend la monnaie de sa pièce. Mais ce qui a changé depuis, c'est que Boko Haram contrôle désormais des vastes territoires dans l'état de Borno, à la frontière du Cameroun, et menace le Cameroun sur près de 400 kilomètres de frontière. Et pour les soldats camerounais, le fait de ne pas pouvoir pénétrer en territoire nigérian limite bien évidemment la riposte. Le Cameroun et le Nigeria ont des relations diplomatiques compliquées et les différents frontaliers du passé, comme celui de la péninsule de Bakassi par exemple, continuent de peser sur ces relations. Le Tchad, lui, n'a pas ses problèmes relationnels avec Abuja et a pu obtenir un droit de poursuite lorsqu'il a décidé de venir au secours du Cameroun. C'est pourquoi le Tchad, actuellement engagé en territoire nigérian, fait le travail, un travail que théoriquement l'armée nigérienne devrait faire elle-même.
Alors Olivier, revenons d'un mot sur ces soldats que vous avez rencontrés. Pour beaucoup, c'est leur baptême du feu. L'armée camerounaise est-elle suffisamment solide pour encaisser le coup?
Les faits parlent d'eux-mêmes. 114 affrontements armés en 2014, l'an dernier, donc, dont 26 attaques majeures de Boko Haram sur des camps ou des positions camerounaises, elles ont toutes été repoussées. Yaoundé a déployé 6000 hommes dans le nord, dont 2000 éléments du BIR. Le BIR, c'est ce bataillon dont on parle dans le reportage, le bataillon d'intervention rapide. Des hommes bien formés, bien encadrés, qui ont pris la mesure de leurs adversaires. Ces jeunes soldats ont très rapidement acquis une connaissance de Boko Haram, de ses tactiques de combat, de son organisation interne, et tout cela est précieux et leur permet d'adapter leur tactique et leur stratégie pour protéger plus efficacement leurs frontières.
Et cette dernière question, Olivier, le combat contre Boko Haram est une chose, mais on voit bien que la secte, hein, ou la nébuleuse a recruté au Cameroun, recruté, forcé ou non. Comment éviter que l'idéologie de Boko Haram ne déstabilise le Nord Cameroun?
C'est l'un des points essentiels et il faut préciser d'abord que la plupart des populations du Nord Cameroun sont hostiles à Boko Haram, sont victimes des agissements de la secte, mais il y a des villages, des zones où Boko Haram a de l'influence, à la fois parce que la secte a recruté des jeunes hommes, mais aussi parce que son idéologie rencontre un certain écho. L'État est conscient d'une chose, les régions du Nord ont besoin d'investissements, d'aide, d'une plus grande présence de l'administration. Un plan d'urgence a d'ailleurs été annoncé, mais il faut s'interroger sur les moyens dont dispose le Cameroun, parce que cette guerre au Nord est coûteuse. En 2014, l'État aurait dépensé l'équivalent d'un milliard d'euros dans cette guerre et pour soigner les répercussions selon des données officieuses, et la marge de manœuvre budgétaire apparaît assez limitée. La lutte contre Boko Haram, contre ses attaques, mais aussi contre la propagation de son idéologie passe par l'argent, et ce n'est pas un hasard si des jeunes Camerounais se sont laissés tenter par les sirènes de la secte pour quelques centaines de milliers de francs CFA. C'est parce qu'au nord du Cameroun règne une pauvreté supérieure à la moyenne nationale et sévit un chômage endémique.
Ce sera le mot de la fin. Un grand reportage à réécouter dans son intégralité, Olivier, sur
RFI.fr.
Et ben voilà. Olivier Roger, merci beaucoup.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose